Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bousouma.
Programme de développement de 145 territoires en RDC. En visite en Mbujimayi, le directeur général du bureau central de coordination BCECO s'est dit satisfait de l'évolution des travaux dans le Kasaï oriental. Jean-Mabi Mulumba, qui boucle sa mission dans cette province, parle de 80% d'ouvrages déjà réalisés. Et puis, le pape François arrive demain à RDC, vous le savez. À cette occasion, le chargé de communication du diocèse de Kalemie-Kirungu dans le Tanganyika retrace l'historique de ce diocèse implanté par les pères missionnaires d'Afrique, ce depuis l'époque de l'État indépendant du Congo. L'abbé Philippe Gachi est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Kasaï oriental. Fin ce lundi à Mbujimayi de la mission officielle du directeur général du bureau central de coordination BCECO, Jean-Mabi Mulumba, est allé inspecter les travaux du projet de développement local de 145 territoires. Ce week-end, le DG de BCECO a visité les territoires de Lupatapata et Katanda où certains ouvrages sont en pleine construction. Après cette visite, le DG de BCECO parle ici de ses impressions au micro des Stern de la Fina. Voilà, j'étais en train de dire que Jean-Mabi Mulumba, directeur général du bureau central de coordination BCECO, a bouclé sa mission officielle à Mbujimayi ce lundi. Il parle ici de ses impressions au micro de Esther Ndalafina.
Je séjourne à Mbujimayi, c'est dans le cadre de la mission d'inspection des travaux du programme de développement local de 145 territoires, pour lesquels j'ai la charge de mettre en œuvre dans la province du Kasaï oriental. 145 territoires, en fait, c'est un programme, comme vous le savez, initié par le chef de l'État, en réponse aux préoccupations exprimées par les différentes couches de nos populations qui se trouvent à l'arrière-pays. Je vous ai amené visiter les chantiers comme témoin. Les chantiers que nous avons vus évoluent. Je suis satisfait. On ne peut pas dire à 100%, mais au moins je suis satisfait à 80%. Pourquoi ? Parce que je vois d'abord la qualité des ouvrages. En dehors de ces ouvrages, nous avons constaté en fait l'impact positif tout autour des sites où sont en train d'être construits les infrastructures dans le cadre des PDL. Nous avons vu une petite activité s'est développée dans les villages. Les chantiers sont fournis en matériaux locaux par les mamans de ces villages-là. Les matériaux tels que le sable, les graviers, l'eau, ce qui témoigne en fait d'une forte appropriation des populations vis-à-vis du PDL 145 territoires. Et cela permet aussi à ces populations d'avoir un revenu et d'améliorer leurs conditions de vie.
Justement, dans le cadre du projet de développement local de 145 territoires, un centre de santé de Kabwe, nous sommes toujours au Kasaï oriental, situé à une vingtaine de kilomètres de Mbujimayi, est en pleine construction dans la localité de Kabwe, territoire de Katanda. C'est la Caritas Développement Idiofa qui a gagné le marché comme agence locale d'exécution auprès du bureau central de coordination BCECO. Ce week-end, le directeur général de BCECO a effectué une visite sur le lieu pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de construction des ouvrages financés par son institution, comme vous venez de l'entendre. Le point avec Esther Ndalafina.
Le centre de santé de Kabwe 1 est en pleine construction depuis bientôt 3 mois, d'une capacité de plus de 10 malades. Cette infrastructure hospitalière de référence des malades vers les hôpitaux généraux aura un grand bâtiment subdivisé en deux, affirme Gaylor Muzondo, ingénieur constructeur.
Il est prévu un bâtiment principal qui est composé en deux parties, côté maternité et côté hospitalisation, et un bâtiment hall de causerie pour les consultations prénatales, postnatales et de vaccins, un bloc sanitaire et d'autres ouvrages connexes, incinérateurs, des fosses septiques.
Après la fondation, les murs ont été élevés. L'ingénieur constructeur affirme que la charpente peut être posée cette semaine.
Déjà dès lundi, on commence la charpente et la toiture couverture.
Le financement de ces travaux provient de BCECO et cela se porte bien, affirme Abbé Patience Munganga de la Caritas Développement Idiofa qui a gagné le marché. Cependant, la seule difficulté relevée reste l'acheminement des matériaux sur le site.
La première, c'est l'inaccessibilité des routes. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a des transporteurs qui refusent d'amener les matériaux ici. Et la deuxième difficulté, c'est la rareté de certains matériaux sur les marchés de Mbujimayi. Par exemple, les types de tôles que nous devons utiliser ne sont pas là.
Signalons qu'il reste 2 mois pour que Caritas Développement Idiofa remette cet ouvrage au territoire de Katanda. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs en RDC. Dans la province du Maniema, 17 tonnes de matériel ont été réceptionnées hier par le secrétaire exécutif de la CENI Maniema. Émile Dimo Kitamboué fait savoir que d'ici deux matins, ce matériel sera déployé dans les 629 centres d'inscription que compte la province du Maniema. Émile Dimo Kitamboué l'a dit à Florence Kiza.
Nous venons de réceptionner le matériel pour l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Comme vous le remarquez, ces jours, dimanche janvier 2023, par les réguliers de Gomer, nous venons de réceptionner 17 tonnes de matériel pour l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Il s'agit des kits et d'enrôlement proprement dit. Nous venons de recevoir les films plastiques pour le laminage des cartes d'électeurs. Nous venons aussi de réceptionner les cartes d'électeurs ainsi que le fiche d'identification. La présence justifie que, nous devons procéder à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Comme vous le savez, le Maniema est classé dans la troisième ère opérationnelle et déjà le 16, nous commençons l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. C'est ce qui justifie ce mouvement de kit que vous venez de constater ces jours. La province du Maniema, 629 centres d'inscription. Nous commençons les 16. Nous venons de terminer la série de formations. C'est ce qui prouve que déjà nous entamons la dernière cascade de formation la semaine prochaine et ce serait vite fait l'opération proprement dite elle-même.
Par ailleurs, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a quitté la ville de Lubumbashi après une mission de 24 heures qu'il y a effectuée au cours de son séjour. Denis Kadima a visité quelques centres d'identification et enrôlement des électeurs. D'après lui, jusqu'à présent, tout se déroule normalement. Jean Ganduka Bongo, reportage.
C'est dans l'après-midi de ce dimanche que le président de la CENI s'est envolé pour la capitale Kinshasa. Pendant son séjour louchois, il a visité deux centres, notamment le centre situé dans l'enceinte de la paroisse Saint-Laurent, au quartier Golf Malela dans la commune de Lubumbashi et le centre Kitumaini dans la commune de Kamalondo. Après cette visite, il a fait les constats suivants.
Ils maîtrisent l'outil, ils parviennent à inscrire les gens très facilement et sans trop de difficultés. Quand vous voyez même le nombre de personnes enrôlées, il est presque 12 heures, ils sont chacun à plus de 40, c'est impressionnant. Je suis satisfait de voir comment ça se passe, ils maîtrisent les choses parce que nous avons beaucoup appris de notre expérience dans l'ère opérationnelle 1 et aujourd'hui, ce que je vois, même la formation a été améliorée.
Par rapport aux accusations de l'opposition au sujet des centres effectifs, le président de la CENI s'est ainsi exprimé.
Il y a des endroits où les chefs d'école n'ont pas voulu de la CENI. Quand on ne veut pas de nous, nous délocalisons ce centre. Et pour certains, ils pensent que c'est le centre effectif. On n'en a pas du tout. On n'a même pas intérêt à le faire. Nous avons plutôt beaucoup de centres pour atteindre le plus grand nombre de gens, mais il n'existe nullement un seul centre effectif.
Notons que le Haut-Katanga est la cinquième province que le président de la CENI visite depuis les débuts de l'enrôlement dans la deuxième ère. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Parlons à présent de ce triste sort des candidats magistrats, ceux qui ont satisfait au concours du Conseil supérieur de la magistrature du 9 octobre 2022 se disent abandonnés après les avoir fait déplacer à leurs propres frais des provinces à Kinshasa pour un contrôle physique. Le Conseil supérieur de la magistrature leur avait demandé de rester dans la capitale pour une formation. Cependant, plus rien n'est suit jusqu'à présent et on commence à compter des morts parmi eux. Au niveau du Conseil, il était fait mention de la tente d'entrée en vigueur du nouveau budget 2023 afin de procéder à la mise en place générale des magistrats. Mais le syndicat autonome des magistrats les invite simplement à la patience. Selon le président du Sinamag, on doit s'assurer de l'authenticité des titres académiques qu'ils ont produits, car il y en a qui sont des faux. Pour Edmond Issofa, donc, le contrôle se poursuit. Le président du Sinamag explique au micro de Jeff Ngoy.
On doit s'assurer et donner également le temps à certains candidats de pouvoir produire des documents authentiques. Parce que si on agissait aujourd'hui, vous serez vous les premiers à dire que non, voilà, on a élagué tel, mais au moins, nous, les syndicats autonomes des magistrats, nous voudrions nous assurer que ce travail a été correctement fait et que chaque candidat a eu le temps de pouvoir convaincre de l'authenticité de ces documents et même également du fait qu'il a suivi un cursus normal. Donc, je crois que cela ne doit pas déranger. Donc, si quelqu'un n'a pas suivi un cursus normal ou n'a pas des titres académiques. Mais écoutez, il faut les laguer.
Nous avions approché à l'époque, vous aviez apprécié tout ce qui s'est passé.
Même j'ai
si
été
tout
là...
était bien fait, vous
non.
aviez
non, non, apprécié. Non, bon. Non, c'était à la sortie du centre après les concours. J'ai dit que les concours en soi s'est correctement passé. Mais que la vérification des titres académiques intervienne, ça n'a rien à voir avec la position que nous avons adoptée. Effectivement, le concours en lui-même, surtout dans le centre où moi j'ai été, il n'y a eu aucun problème.
L'actualité aussi, vous le savez, le pape François arrive demain mardi en RDC. À cette occasion, nous parlons des œuvres sociales du diocèse de Kalemie-Kirungu dans la province du Tanganyika. Ce diocèse pose plusieurs œuvres sociales dans l'intérêt de la population depuis l'époque coloniale. C'est notamment la construction des écoles, des hôpitaux et d'autres actions de développement. Paulin Munanga nous en dit plus.
Le diocèse de Kalemie-Kirungu a été implanté dans les années 1950 dans sa forme actuelle par les pères missionnaires d'Afrique. Ces derniers ont construit des grands bâtiments qui abritent des églises, des écoles et des hôpitaux, notamment dans les territoires de Moba, Kalemie, Nyunzu et dans la ville de Kalemie, chef-lieu de la province du Tanganyika. Il y a aussi des actes de bonté et de générosité posés par l'Église catholique en faveur des nécessiteux. Témoignage de l'abbé Patrick Kasongo, directeur du centre pastoral au sein du diocèse de Kalemie-Kirungu.
Je citerai à titre illustratif des écoles comme Lusaka, des internats de Liapenda, de Lumono et à Kirungu sur place, des internats qui ont fait aussi la fierté de la contrée comme l'internat de Kaose, Alfajiri et même Santa Maria. Ces écoles ont formé beaucoup de cadres qui ne sont pas seulement de notre contrée mais même au niveau national. Certaines grandes figures sont passées par Moba. En plus des écoles, les œuvres sociales, nous avons aussi même des hôpitaux.
Signalons que la plupart des œuvres sociales du diocèse de Kalemie-Kirungu sont canalisées par la commission diocésaine Caritas et la commission diocésaine Justice et Paix. Kalemie, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Direction le Nord Kivu. Dans le territoire de Rutshuru, un notable de la région s'inquiète de l'avancée des rebelles du M23 et leurs alliés dans la chefferie de Bwito. Cet acteur local dit craindre que la population ne soit prise à partie dans la région où se déroulent les affrontements, notamment dans le groupement Kiondo. Le notable Isaac Kibira affirme que depuis quelques jours, les rebelles renforcent de plus en plus leur position en hommes et en munitions. Il alerte l'opinion sur les risques que court la population locale au regard de la présence des groupes armés locaux dans cette partie. Ce notable appelle la MONUSCO et l'EAC à suivre de près cette situation pour éviter que la population ne subisse des représailles. On écoute Isaac Kibira.
Les militaires de M23 qui sont basés au niveau de Mabenga et Kahunga viennent de renforcer en tout cas ces positions. Des militaires sont venus du Rwanda. 3 véhicules sont arrivés au niveau de Kahunga et Mabenga pour aller renforcer les autres avec des matériels de guerre. En tout cas, l'attaque est imminente au niveau de la Rwindi. Au niveau de Kishishe, ils ont renforcé en hommes et en munitions. Voilà notre alerte. En tout cas, les FARDC doivent être très, très, très prudentes pour sauver la situation et protéger la population et ses biens. Dans le cas contraire, la population subirait des pertes en vie humaine et des pertes aussi des biens de leur économie si le gouvernement ne songez pas le plus tôt possible pour sauver cette population. La situation est chaotique.
Par ailleurs, des tirs nourris sont signalés depuis ce matin dans le village de Kiaemba, groupement Bukombo, chefferie de Bwito. Cette région est à cheval entre les territoires de Masisi et Rutshuru, 6 kilomètres à l'est de la cité de Kichanga. Cependant, à Kichanga et ses alentours, la situation reste relativement calme et les rebelles du M23 poursuivent des patrouilles autour de la base de la MONUSCO. Le point avec vous, Blaise Shindani Kambala.
D'après plusieurs témoignages recueillis ce matin, des tirs à l'arme lourde entendus ce matin ont semé la panique dans la région de Mweso et la population déplacée et autochtone a commencé depuis très tôt à vider les milieux en direction des Pinga, territoire de Walikale. D'après des sources concordantes dans la région, les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise en provenance du village de Masisi, notamment à Carton, se seraient introduits dans les villages de Kiaemba et Karambi en groupement Bukombo. D'après la société civile, ces rebelles viseraient de couper la route de Kachiru, ensuite Nyanzale et Rwindi, des axes importants dans la région. Selon nos sources, jusque-là, il n'y a pas d'affrontement, mais les rebelles ne font que tirer et avancer dans les villages en direction de Bukombo Centre, ce qui inquiète beaucoup la population. D'autres tirs à l'arme lourde et légère proviendraient des collines de Rusinga et Buchalwishi dans la même région, rapportent les sources.
Du côté du sud Kivu, le calme est revenu sur l'île d'Ibinja, dans le territoire de Calais. Cela après l'échange des tirs samedi soir entre la marine rwandaise et la police lacustre de la RDC. Le bilan fait état d'un policier congolais blessé par balle et des dégâts matériels importants. Le point avec Emmanuel Elamenji Wakabedi.
Les faits remontent à samedi 28 janvier aux environs de 18h45. Les témoins affirment avoir aperçu des militaires de la marine rwandaise qui ont débordé de plus de 500 mètres dans les eaux congolaises du lac Kivu. Ils ont tiré plusieurs balles sur un poste de surveillance des forces de défense et de sécurité lacustre congolaise. S'en est suivi la riposte de la police lacustre du Sud Kivu. Ces informations sont confirmées par plusieurs sources sécuritaires au Sud Kivu. Le bilan fait état d'un élément de la police lacustre blessé par balle, des maisons endommagées et bien d'autres dégâts matériels. Cette situation a créé la panique dans la population, mais nos sources rassurent que la situation était redevenue sous contrôle cette même nuit-là. La société civile interpelle les services de sécurité sur l'urgence de renforcer la sécurité dans les contrées au bord du lac Kivu. Les commandants de la force navale Sud Kivu affirment avoir renforcé la sécurité sur le lac pour parer à toute éventualité. Ibindia est un îlot de près de 18 000 habitants dans le territoire de Kalehe, groupement de Mbinga Sud en chefferie de Bouavou.
Actualité internationale. En Tunisie, après la faible participation aux élections législatives, l'opposition tunisienne appelle à un front uni contre le président Kais Saied. Un peu plus de 11% des électeurs se sont rendus aux urnes hier afin d'élire leurs députés pour un parlement dépourvu des réels pouvoirs conformément à la nouvelle constitution portée par le gouvernement. Au Pakistan, plusieurs morts et blessés dans une explosion ce lundi après la prière dans une mosquée à l'intérieur du quartier général de la police de Peshawar dans le nord-ouest du pays. A-t-on appris des sources hospitalières et policières. Nous avons reçu des corps des personnes mortes, mais nous en donnerons le nombre plus tard, a déclaré à l'AFP un porte-parole de l'hôpital en précisant que 39 personnes blessées avaient aussi été hospitalisées.
L'invité.
À l'occasion de l'arrivée du pape François en RDC, l'abbé Philippe Gachi, chargé de communication du diocèse de Kalemie-Kirungu, retrace l'historique de ce diocèse qui se trouve dans la province du Tanganyika, un diocèse qui a été implanté par les pères missionnaires d'Afrique depuis l'époque de l'État indépendant du Congo. L'abbé Philippe Gachi, notre invité, s'entretient avec Paulin Munanga.
Monsieur l'abbé Philippe Gachi, bonjour.
Bonjour Paulin.
Parlez-nous d'abord de l'implantation de l'église catholique d'une manière générale dans la province du Tanganyika et c'était en quelle année?
Les pères missionnaires d'Afrique étaient entrés dans les Hauts-Congo à partir de la Tanzanie pour s'installer dans Lubwari à Masanza en 1880 et à Kibanga en 1883. Mais des suites de maladies et autres inconvénience, ils quittèrent Lubwari pour les Marungu et s'établir à Kapakwe. Nous sommes là en 1883-1885.
Kapakwe, c'est déjà en RDC.
Oui, oui. En RDC et au sud de notre diocèse, nous sommes là dans les territoires des Moba. C'est là qu'il y a Kapakwe. De là, après un arrangement entre le cardinal Lavigéry, qu'on connaît très bien, et le roi Léopold II, ils s'en allèrent de Kapakwe et prirent les postes d'Impala. Nous sommes dans les territoires déjà des Moba, laissés par les commandants Émile Storms de l'Association internationale en 1885. Et ils vont y fonder la première paroisse appelée Notre-Dame d'Assomption. Puis, en 1893 ou 93, ils vont ériger Saint-Joseph à Kirungu, qui est la deuxième paroisse, et qu'ils ont appelé Baudouinville. Généralement, pour les anciens, on dit « je vais à Baudouinville », ça signifie que je vais à Moba.
Donc, c'était l'ancienne appellation des Moba.
Oui, oui, donnée par les pères missionnaires et surtout les Belges.
Et en ce moment-là, donc en 1893, c'était déjà le diocèse de Kalemie-Kirungu.
À ce moment-là, on n'appelait pas diocèse, on appelait vicariat apostolique. Et enfin, notre diocèse, du 10 novembre 1959 jusqu'au 22 août 1972 ou 72. Voilà, donc nous avons les noms diocèse Kalemie-Kirungu. Maintenant, nous sommes à 50 ans du nom authentique Kalemie de Kirungu. À l'époque, on l'appelait diocèse de Baudouinville ou vicariat apostolique de Baudouinville.
Après l'implantation, comment a évolué le diocèse de Kalemie-Kirungu?
Voilà, le diocèse a évolué, surtout avec l'effort des pères missionnaires et aussi avec quelques autochtones. Et lorsque nous parlons de l'histoire du diocèse de Kalemie-Kirungu, on ne peut pas se passer du premier prêtre de la deuxième évangélisation, l'abbé Stéphane Okaose. D'ailleurs, qui a évolué, et certains récits disent qu'il est né vers les années 1885. Et c'est un natif de la paroisse Saint-Martin de Lumono. Et nous avons eu la chance de jubiler, de joie, parce que depuis qu'il est décédé, comme prêtre, il a réalisé 100 ans parce qu'il a été ordonné en 1917. Et le diocèse a évolué de cette manière-là, avec l'apport aussi des autochtones.
Combien de paroisses au total y a-t-il dans les diocèses de Kalemie-Kirungu?
Pour le moment, nous avons plus ou moins 8 paroisses au niveau du doyenné centre. Parce que le diocèse de Kalemie-Kirungu n'est pas seulement au niveau de Kalemie. Donc le diocèse de Kalemie-Kirungu prend 3 territoires. Nous avons le premier territoire, le territoire de Kalemie, d'ailleurs où se trouve maintenant les sièges épiscopal du diocèse. Nous sommes à Kalemie. Nous avons aussi les doyennés sud, là c'est à Moba, avec à peu près plus ou moins 7 paroisses. Nous avons aussi les doyennés nord, là c'est à Nyunzu. Et là, au niveau de Nyunzu, nous avons maintenant 2 grandes paroisses. Donc des églises érigées déjà en paroisses. Et voilà un peu comment est-ce que l'église particulière du diocèse de Kalemie-Kirungu a pu évoluer à travers les années et à travers les siècles. Donc c'est déjà une église qui est vieille par rapport à d'autres églises.
Le diocèse de Kalemie-Kirungu est implanté dans 3 territoires, vous venez de le dire. Et que dire d'autres territoires?
Les autres territoires, par rapport à notre province, parce que notre province compte 6 territoires, mais notre diocèse ne prend que 3 territoires. Le territoire de Moba, le territoire de Kalemie et celui de Nyunzu. Tandis que les autres territoires sont gérés aussi d'une manière autonome, parce que dans ce territoire-là, il y a des diocèses. Nous prenons le territoire, par exemple, de Manono. Le territoire de Manono constitue déjà un diocèse, qu'on appelle diocèse de Manono. Nous avons le territoire de Kongolo. Ça constitue aussi en soi déjà un territoire. Donc un diocèse qui prend aussi des territoires. Parce que dans les diocèses de Kongolo, nous avons Kongolo comme territoire. Nous avons aussi Kabalo comme territoire.
Monsieur l'abbé Philippe Gatti, je vous remercie.
Je vous remercie aussi.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.